On continue notre série dans Jean et ce matin, on s'en va dans un passage qui est vraiment spécial. C'est un passage où il y a une rencontre extraordinaire qui se passe entre une personne et Jésus. Puis une femme, puis Jésus-Christ. Puis pour moi, cette rencontre-là illustre ce qui se passe lorsque quelqu'un rencontre personnellement Jésus-Christ. Si tu es chrétien comme moi, lorsqu'on parle de notre foi à des gens, on parle de quelque chose de personnel. Souvent, on va leur raconter l'histoire de Jésus, on va leur parler de ce que Jésus est venu faire, mais on leur dit, c'est pas une religion, c'est vraiment quelque chose qui se passe, une rencontre qui va se passer. Et je trouve que cette histoire-là, cette rencontre-là, est une super belle illustration de la grâce que tu expérimentes lorsque tu rencontres personnellement Jésus-Christ. Jésus va rencontrer une dame qui est une femme étrangère. Jésus est juif. Alors, ceux qui ne sont pas familiers avec la Bible, juste se mettre un petit peu en contexte parce que c'est vraiment important dans ce qui se passe là, dans cette rencontre-là. Alors, Jésus est juif et cette femme-là, dont on ne connaît pas le nom, est samaritaine. C'est intéressant juste de remarquer qu'on ne connaît pas son nom. On vient juste au chapitre 3 d'avoir la rencontre entre Nicodème, qui était un expert de la Bible dans l'Ancien Testament et qui avait des questions pour Jésus. Puis lui, on connaît son nom. Puis là, on arrive avec cette dame-là qui, elle aussi, va avoir des questions pour Jésus. Nicodème puis la Samaritaine, c'est comme deux personnes qui sont placées en parallèle. Deux personnes qui ont des questions pour Jésus, puis Jésus va leur parler de la vie éternelle aux deux personnes. Maintenant, lorsque dans une histoire, tu as un personnage dont tu ne connais pas le nom, c'est plus facile de s'identifier avec cette personne-là. C'est intéressant, j'ai hâte de m'asseoir avec Jean au ciel et dire, okay, pourquoi t'as nommé Nicodème, t'as pas nommé la Samaritaine ici? Mais j'y vais de mon hypothèse, Nicodème est un expert, on nomme son nom, finalement il ne connaît pas grand-chose. Mais cette dame-là qui était un peu, on va voir, une paria, qui est à l'écart de sa propre culture, qui est déjà à l'écart des Juifs, elle, on n'a pas son nom, puis on peut s'identifier avec elle. Plus facilement encore. C'est vraiment intéressant. Donc, c'est qui les Samaritains? C'est qui les Juifs? Il faut juste que je vous mette en contexte. Alors, la Samarie, c'est une région du territoire d'Israël. C'est au nord de Jérusalem. Et ce que vous devez savoir, c'est que pendant longtemps, Israël a été séparé en deux territoires. Le territoire du sud, ou Juda, et le territoire du nord. À un certain moment donné, ils ont été envahis par les Assyriens. Et le territoire du nord a été conquis par les Assyriens. Puis il y a eu une grande déportation. Donc, on a pris à peu près tout ce qu'il y avait de l'énergie qui était en santé en Israël, tous les dirigeants, on les a déportés et puis on a importé littéralement des gens d'autres territoires qu'on avait conquis. C'était une pratique commune à l'époque, c'était une manière de déstabiliser puis s'assurer qu'un territoire conquis demeurait soumis. Maintenant, ces nouvelles personnes-là qui sont arrivées là ne sont pas juives. Il y a resté des Juifs qui sont restés derrière, souvent les plus pauvres, souvent ceux qui sont moins en santé. Et ces populations-là se sont mélangées. Éventuellement, se sont mariés ensemble et ont eu des enfants. Et donc, ce ne sont plus tout à fait des Juifs, parce qu'ils sont mélangés maintenant. Et lorsque éventuellement, les gens vont revenir en Israël, les Juifs vont revenir en Israël, il va toujours demeurer une division entre ces gens-là, qui sont un peuple au sang mêlé, si je peux dire, et les Juifs. Maintenant, s'ajoute à ça une deuxième chose, c'est que puisqu'ils sont mis les Samaritains vont décider de ne pas aller adorer à Jérusalem, mais ils vont adorer au mont Garizim. Le mont Garizim, dans l'Ancien Testament, c'est un mont super important. C'est là qu'on prononce les bénédictions au nom de l'Éternel. Eux autres, ils disent, c'est ici que ça va se passer. Donc, ils ont leur version un peu de la religion de l'Ancien Testament. Ils sont complètement à part. Même en 128 avant Jésus-Christ, le grand prêtre Jean Hyrcanus de Jérusalem va faire détruire le temple au mont Garizim pour essayer vraiment de les amener à se soumettre puis à venir adorer à Jérusalem. Les Samaritains vont continuer à adorer le mont Garizim. Et donc, il y a une relation de discrimination entre ces deux peuples-là. Il y a une relation même, je dirais, de racisme entre ces deux peuples-là. Jésus, c'est un Juif. Elle, c'est une femme samaritaine. Vraiment intéressant. Et puis, la Samarie est enclavée à l'intérieur du territoire d'Israël. Et donc, les Juifs, régulièrement, lorsqu'ils allaient vers le nord, passaient par la Samarie, mais tu sais, c'était un peu un no man's land pour eux. Ils passaient vite, 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 ne parlaient pas à personne. Situation de COVID, tu sais, tu traverses le, le Nouveau-Brunswick pour aller aux Îles-de-la-Madeleine, tu n'as pas le droit de faire d'arrêt. D'accord? On a vécu ça cette année. Il ne faut pas assez vite, on ne parle pas à personne, il ne faut pas déranger. Il ne faudrait surtout pas que... Hein? Bon. OK. Et c'est un petit peu ça qui se passe ici. Mais il va se passer une rencontre vraiment extraordinaire, qui est une super belle illustration de la grâce de Dieu et de ce que Jésus veut offrir à cette femme-là, à qui normalement, il n'aurait même pas dû parler. On va aller ensemble dans la prière. Seigneur Jésus, on vient t'adorer ce matin, on vient te célébrer. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es notre Dieu. Tu es Dieu le Fils. Tu nous as fait connaître le Père. Tu es venu, toi qui viens du ciel, comme on l'a dit la semaine dernière, et tu es venu pour nous faire connaître, rendre témoignage de ce que toi tu connais et que nous ne connaissons pas, Seigneur. Et tu es venu nous révéler Jésus-Christ. Tu es venu nous révéler le Père, toi Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je veux te demander de parler à nos cœurs ce matin. Viens nous montrer ton affection, ta générosité, ta bonté, à travers laquelle tu te révèles. C'est dans ce geste de don de soi où tu franchis la distance vers cette femme, où tu la révèles à elle-même, Seigneur, que tu vas te faire connaître et que tu vas faire de nous des adorateurs en esprit et en vérité. Je te prie, Seigneur, de venir nous toucher par ta grâce ce matin. Et si quelques personnes écoutent ce message et n'ont pas vécu cette rencontre de grâce-là que cette femme samaritaine vit avec toi, Seigneur, on te prie par la puissance de ton Esprit Saint, avec ta parole, de venir rencontrer ces gens aujourd'hui. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. On va écouter Julie nous faire la lecture des Écritures.
Du livre de Jean, chapitre 4, les versets 1 à 26, dans la nouvelle édition de Genève. Donc Jean, chapitre 4, versets 1 à 26. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. » Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. »« Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as raison de le dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Seigneur, lui dit la femme, « Je vois que tu es prophète. » Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui que l'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. »
Merci Julie. Je vous cite deux citations que vous avez probablement déjà entendues. Blaise Pascal, un philosophe mathématicien français du 17e siècle, a dit ceci. « Il y a un vide en forme de Dieu dans le cœur de chaque homme qui ne peut être rempli par aucune chose qui ait été créée, mais seulement par Dieu. Une belle pensée qui reflète une vérité biblique. Puis on se demande si cette citation-là, cette pensée-là, Blaise Pascal l'aurait pas déjà prise de saint Augustin. Là, on s'en va beaucoup plus loin dans l'histoire. Alors, Augustin a écrit quelque chose comme ceci. « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi. » Et Augustin parlait de son cheminement à lui vers la conversion, alors que sa mère était chrétienne, lui n'était pas chrétien, il vivait dans le monde, mais à un certain moment donné, il a réalisé que ce qu'il cherchait dans le monde, seul Christ pouvait le lui donner, et donc il a trouvé son repos en Jésus-Christ. Dans le passage de ce matin, Jésus veut assouvir, il veut rafraîchir, il veut répondre à un besoin que la Samaritaine ne réalise même pas. Cette femme-là ne réalise même pas qu'elle a ce besoin-là, tout probablement. Mais Jésus, lui, veut la combler, il veut la remplir avec la vie éternelle, il veut la bénir de la vie éternelle. On lit au verset 13-14, Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, en parlant de l'eau qu'elle venait puiser au puits. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » C'est un des passages qui m'inspire le plus sur comment je veux vivre ma vie chrétienne aujourd'hui. Je veux expérimenter quotidiennement cette eau qui jaillit de moi maintenant, parce que j'ai rencontré Christ jusque dans la vie éternelle. Et si tu n'es pas chrétien, bien, Dieu veut combler ce vide-là, dont parle Blaise Pascal, dont parle Augustin, dont parle Jésus ici, que tous les êtres humains expérimentent. C'est étrange de voir des gens qui peuvent devenir immensément riches et qui pourtant ne semblent pas heureux. J'ai eu dans ma famille des gens qui ont eu beaucoup d'argent et qui, je pense à quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, et qui est, dans les derniers jours de sa vie, elle était très riche, très malheureuse. Il y avait quelque chose qui était profondément non comblé en elle. Et donc, si tu n'es pas chrétien, Christ veut venir assouvir ça. Il y a des choses que seul Dieu peut combler en nous. Et si tu es chrétien, bien souvent on l'oublie. Souvent on oublie que cette fontaine à laquelle on va boire, qui nous rafraîchit, qui nous apaise, là où se trouve notre repos, comme dit la lettre aux Hébreux, c'est en Christ, c'est à Jésus-Christ. Et donc, si depuis un certain temps, ton cœur est agité, ton cœur est troublé, il n'y a pas de repos, peut-être que tu peux juste prendre le temps de vérifier, est-ce que tu prends le temps de venir à Christ régulièrement? C'est lui qui nous comble vraiment, c'est lui qui nous apaise. Et peut-être c'est ça qui se passe, peut-être qu'il y a quelque chose dans ta communion avec Christ, dans la marche, dans la plénitude de l'Esprit dont il est question ici, que tu as négligé dernièrement. Reviens à la source, afin que de ton cœur, de ton âme à toi, puisse jaillir cette vie-là à nouveau, vraiment. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. Jésus nous aime plus que nous ne pourrons jamais nous aimer. Il nous connaît mieux que nous ne pourrons jamais nous connaître. Et il fait de nous de vrais adorateurs de notre Père qui est dans les cieux. Je répète ça. Jésus nous aime plus que nous ne pourrons jamais nous aimer. Il nous connaît mieux que nous ne nous connaîtrons jamais. Et il fait de nous de vrais adorateurs de notre Père qui est dans les cieux. C'est intéressant parce que quand j'étais en train d'étudier le passage, j'étais là et je luttais avec quelque chose dans le texte. C'est Jésus-Christ se révèle. C'est lui le personnage central. C'est lui qui est au centre de l'histoire. Mais il est tellement attentif à cette femme-là qu'on dirait que ce qui est central, c'est la relation qu'il veut établir. Je veux dire, c'est Jésus, c'est lui qu'on adore. C'est lui qui est au centre de nos vies. Mais il est tellement engagé à se révéler à cette femme-là que la relation est super importante. Pour moi, c'est ça qui est central dans l'histoire. C'est à travers le fait qu'il va lui montrer qu'il l'aime, qu'il va lui montrer qu'il la connaît mieux qu'elle se connaît elle-même, qu'il va se révéler lui-même par son attitude, par son amour envers elle. Jésus, l'ami des pécheurs. Regardez versets 4 à 7. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, hein, j'ai dit qu'il traversait le Nouveau-Brunswick. Quoique le Nouveau-Brunswick, ce n'est pas la Samarie. Stephen, si jamais tu entends ça, mon ami, Excuse-moi. Aïe, aïe. Des fois, on dit des niaiseries. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob, que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Il y a des petits indices tout petits que vous avez peut-être déjà entendus dans le passage. Cette dame-là vient puiser de l'eau à midi, sixième heure, midi. Seul. Il ne nous est pas dit que des femmes vinrent, une femme vient, elle vient seule à midi. C'est très peu probable, pour autant qu'on peut voir dans l'histoire, que c'était comme le bon moment. Vous comprenez, si vous vous imaginez marcher, je ne sais pas moi, un ou deux kilomètres pour vous rendre au puits, vous n'allez pas là à midi si vous devez porter des litres d'eau sur votre tête. Vous allez là beaucoup plus tôt le matin, lorsqu'il ne fait pas chaud. J'ai eu le privilège d'aller en mission court terme en Haïti. À 4h, 4h30 du matin, autour de la mission, tu commences à entendre les fours, les cuisines qui partent. Les dames sont là, puis elles travaillent très, très, très tôt le matin. À midi, tout le monde est sur le break. Mais là, cette dame-là s'en va puiser de l'eau, à midi, seule. Et on a probablement un indice déjà, quelque chose qui va se confirmer avec ce que Jésus a révélé sur elle, qu'elle était elle-même à l'écart de sa communauté, de sa société, de sa culture. Parce que c'était une femme qui avait eu plein d'hommes dans sa vie, qui n'était même pas mariée à ce moment-là, qui vivait avec un homme. Et donc, on a une scène où tu as une Samaritaine. Déjà, si ça avait été un homme samaritain, ça aurait déjà été quelque chose que Jésus lui parle. Là, c'est une femme. Les hommes, les femmes ne se parlaient pas nécessairement avec autant de liberté qu'aujourd'hui. Donc, c'est une femme samaritaine. Et c'est une femme samaritaine qui était un peu un paria dans sa culture, parce que c'était une femme, disons, de vie légère ou de mœurs légères, qui avait eu plein d'hommes dans sa vie. Puis Jésus lui adresse la parole. Et on voit à quel point Christ franchit la distance. C'est lui qui vient vers nous. C'est intéressant parce qu'une des choses que je vais essayer de faire ressortir du passage, c'est toute la notion de honte. C'est très, très fort en nous, cette idée qu'on a. On peut avoir honte d'aller vers Dieu, on peut avoir honte de nous-mêmes. Nous sommes des êtres qui, on se cache. C'est très difficile pour nous de ne pas se cacher. On cache des choses sur nous-mêmes. On est constamment en train d'ajuster notre image devant les gens. Même les gens qui disent « Ah, moi, je suis super transparent. » Oui, ça, c'est l'image que tu veux projeter ou que tu veux te faire croire à toi-même de toi-même. Toi, tu es quelqu'un de super transparent. C'est bon, qu'est-ce que tu caches? On est des gens comme ça. Puis, c'est frappant de voir comment Jésus, lui, va couvrir la distance. Il va vers elle, puis lui dit, « Donne-moi à boire. » Puis elle, bien dans le fond, elle réagit tout à fait normalement selon la culture. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? » Elle n'en dit pas plus. Elle ne souligne pas le fait qu'il est midi, puis que c'est peut-être pas normal qu'elle soit là à ce moment-là, mais déjà, c'est une Samaritaine. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Et dans la vision rituelle des Juifs, si Jésus buvait cette eau-là, il était impur rituellement. C'est une femme Samaritaine qui va lui passer son gobelet d'eau, son vase, pour boire. Et donc, il va devenir impur rituellement. Une des choses qu'on découvre avec Jésus, c'est que Jésus ne peut pas devenir impur, c'est celui qui purifie. Constamment dans les évangiles, tu ne peux pas souiller Christ. Christ est celui qui te rend pur. C'est celui qui franchit la distance pour nous toucher quand nous nous regardons comme des intouchables. C'est vraiment intéressant parce que même chrétien, l'espèce de retenue qu'on a lorsqu'on sent qu'on a négligé Dieu ou qu'on a péché puis qui nous prive d'aller vers lui, porte en elle-même, cette retenue-là, un mensonge sur la personne de Christ. Quand il y a quelque chose en moi qui fait que j'ai de la difficulté à m'approcher de lui, quand j'ai une espèce de sentiment d'indignité, bien, ce sentiment-là, il est peut-être juste sur moi, mais il dit quelque chose de faux sur Christ. Est-ce que vous me suivez? Parce que lui va la franchir, la distance. Lui n'est pas arrêté par mon impureté. Ça ne le limite pas du tout, le fait que c'est une femme samaritaine, puis il la connaît plus qu'elle pense encore. Ça ne l'affecte pas. Pour se faire connaître à elle, il va falloir qu'il la révèle à elle-même pour la convaincre que lui franchit cette distance-là sans problème. Et ce que Jésus veut faire, c'est qu'il veut... Il veut la rassasier, il veut lui donner une eau qui est tellement meilleure que l'eau qu'elle va puiser dans ce puits-là. C'est intéressant, il y a juste comme un petit jeu de mots, là. C'est un puits, hein? Un puits, c'est pas de l'eau qui coule en montagne. Ceux qui aiment aller en montagne, qui aiment aller marcher en montagne, souvent on va boire littéralement dans un ruisseau parce que l'eau circule, puis est lavée, est en mouvement. Mais là, Jésus dit, non, moi je t'offre pas l'eau d'un puits. Je t'offre beaucoup plus que ça. Je t'offre une eau vive. Une eau qui circule, une eau même qui va jaillir de celui qui croit en moi. Et Jésus veut la combler. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. On est encore dans le thème de la vie éternelle. Parce que tu crois en Christ, tu as la vie éternelle. C'est ça qu'on a dit la semaine dernière. Juste avant, dans sa rencontre avec Nicodème, qu'est-ce qui sort? Toute l'idée de la nouvelle naissance, comment est-ce qu'on fait pour avoir la vie éternelle? Jésus est tranquillement en train de révéler que ce qu'il vient nous donner, c'est quelque chose qui va produire en nous cette vie éternelle-là, qui commence même maintenant, qui à quelque part vient me rassasier mieux que n'importe quel breuvage, n'importe quelle eau va pouvoir me rassasier. Parce que, Blaise Pascal, Augustin, ça vient combler en moi quelque chose que rien d'autre peut combler, que personne d'autre peut combler. Ni l'amour, ni l'argent, ni les meilleurs repas au monde, ni la santé, ni les voyages, ni les vacances. Mais seul Christ peut combler. Puis pour nous qui sommes chrétiens, ça parle de l'attitude qu'on doit avoir. Cette année, on parle de distanciation sociale. Je vais prendre ça comme exemple, mais c'est parce que avec toutes les tensions raciales, toutes les questions de racisme systémique, il y a comme une thématique de distance qui est là, avec la pandémie, distanciation sociale. Et puis c'est drôle, on dirait que cette année, pour être tout le monde ensemble, pour se protéger de la pandémie, on doit créer plein de clivages entre tout le monde. On est plus loin des gens. Puis on sent même qu'il y a des distances qui sont plus profondes que ça, qui sont raciales, où il y a du racisme, de la discrimination. Ces questions-là sont soulevées. Et moi, comme chrétien, lorsque je comprends que Christ a franchi, Christ n'avait aucune crainte d'être rendu impur en venant vers moi, lui a franchi la distance, il est venu vers moi. Quand j'ai saisi l'Évangile, dans toutes mes attitudes, mes comportements envers d'autres êtres humains, je suis appelé à incarner ça. Être celui qui franchit la distance, celui qui initie la relation, celui qui va vers l'autre, celui qui met de côté les préjugés. Lorsque je vais vers quelqu'un, ce serait normal que la personne puisse être surprise et qu'elle dise « Pourquoi tu me parles? Pourquoi tu viens vers moi? » Puis que je le fasse avec spontanéité, avec simplicité. Et l'Église est appelée à être ça. L'Église doit être une incarnation dans nos rapports les uns avec les autres, où des gens qui rentrent en contact avec l'Église disent « Attends un petit peu, c'est une place où les gens couvrent la distance, vont vers l'autre, font les premiers pas, mettent de côté les préjugés. Cette femme samaritaine-là avait un paquet de préjugés sur la relation qu'elle devrait avoir avec cet homme-là inconnu qui est juif. Ses préjugés lui avaient été enseignés par la culture, ça faisait partie de ça. Puis elle est juste comme « Mais qu'est-ce qui se passe? » Et je veux dire, il va dans l'intimité, dans le sens qu'il dit « Donne-moi à boire. » Elle, dans sa tête, c'est « Attends un peu, là. Tu vas te rendre impur rituellement. C'est quoi? C'est pas juste qu'il lui parle, vous comprenez? » Non, il s'en va manger avec elle. Et on est appelé à incarner ça comme chrétien. Jésus veut nous assouvir, il veut nous rafraîchir, il veut combler la distance avec nous, mais pour ça, il va devoir nous révéler combien il nous connaît nous-mêmes. Et c'est ça qu'il fait avec cette dame-là. Il nous connaît tellement qu'on ne peut même pas lui cacher quoi que ce soit sur nous. celui qui te connaît et qui t'aime. » C'est vraiment la douceur qui sort de tout ce passage-là. Jésus lui révèle qui elle est, puis il est comme direct, mais accueillant. Il est franc, mais il va vers elle. Au verset 16, « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » « Ah, tu es célibataire. » Jésus lui dit, « Tu as raison de dire, je n'ai point de mari. » Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Cette rencontre-là que Jésus fait avec cette femme-là, pour qu'elle puisse expérimenter entièrement la grâce de Dieu, l'amour de Christ, Jésus doit lui révéler qu'il la connaît comme elle est. Et c'est une des choses qu'on vit lorsqu'on expérimente l'Évangile, lorsqu'on expérimente la grâce de Dieu, le pardon de Dieu, ça me demande que Dieu, à quelque part, me révèle qui je suis vraiment. Qu'il n'y ait pas de jeu entre Dieu et moi et qu'il n'y ait plus de jeu envers moi-même. Cette femme-là est en train de cacher certaines choses parce qu'à quelque part, ça ne serait pas honorable. J'ai pas de mari. Je ne peux pas te présenter mon mari, je n'ai pas de mari. Et probablement qu'elle n'est pas prête à assumer tout ce qu'elle est. Et à l'époque, c'était énorme, là. À l'époque, c'était énorme. Puis Jésus va lui dire, tu as raison, mais c'est parce que tu en as eu plusieurs. Puis aujourd'hui, l'homme avec qui tu vis, ce n'est pas ton mari. Et à l'époque, c'était quelque chose qui était inacceptable. C'était, je veux dire, devant Dieu, cette femme-là aurait dû être mariée. Pour que je puisse saisir l'Évangile, il faut que Dieu me révèle à quel point je suis loin de lui. Pour que Dieu se rapproche de moi, il faut qu'il me révèle à quel point je suis loin de lui. Pour que Dieu entre en communion avec moi puis que je saisisse sa grâce, il faut que moi, je devienne honnête avec moi-même puis honnête devant Dieu puis que je dise « je ne qualifie pas ». Je ne rentre pas dans tes standards, Seigneur. Je suis pécheur. Et cette femme-là était l'incarnation dans sa culture de Samaritain qui déjà était loin de l'Ancien Testament. Hein? Elle était l'incarnation d'une femme aux mœurs légères, à une vie déréglée. Puis Jésus il dit, écoute, si tu veux me connaître, il va falloir qu'on arrête de jouer. Il faut qu'on ait une vraie conversation. Il faut que tu reconnaisses qui tu es devant moi. C'est juste comme ça que tu vas pouvoir découvrir qui je suis. Parce qu'autrement, tu ne pourras pas découvrir mon amour, ma grâce. Mais si on arrête de jouer là, tous les deux, puis tu es honnête, là, tu vas réaliser combien je t'aime. Combien moi, je couvre la distance, puis je viens vers toi. C'est vraiment beau ce qui se passe ici. Il veut te révéler à toi-même pour te sauver. C'est drôle parce qu'après ça, elle l'assume entièrement. Lorsqu'elle va au verset 39, on va voir ça plus la semaine prochaine, elle l'assume entièrement. Lorsqu'elle va vers le village, elle leur dit, « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Elle leur parle de Jésus, puis elle dit, « Venez, je pense que j'ai trouvé le Messie. Écoutez, c'est un prophète, il est extraordinaire. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Elle l'assume devant les gens du village au complet. Cette femme-là est déjà plus la même. Elle est déjà plus la même. Lorsqu'on découvre la Bible, on découvre l'Ancien Testament, on découvre le péché de nos premiers parents, Adam et Ève, leur premier réflexe, c'est de se cacher. Lorsqu'ils ont péché, ils découvrent qu'ils sont nus, ils vont se couvrir, puis là, il y a toute la notion de honte qui embarque dans l'expérience humaine. Ça devient une réalité qu'on vit. Nous sommes des gens qui soit sommes fiers de dire ce qu'on est, soit avons honte de ce qu'on est ou de ce qu'on a fait. Puis ça demeure avec les chrétiens. Hein. Ça demeure un combat, ça demeure une lutte. Je vais être honnête avec vous, ce n'est pas parce que tu deviens chrétien que tu n'expérimentes plus jamais la honte, mais tu es toujours en train de revenir à l'Évangile. Parce que je peux avoir honte de quelque chose que j'ai fait, m'en repentir, demander pardon à Dieu, mais si je pense que ça crée une distance entre Dieu et moi, c'est que je ne comprends pas bien qui est Christ. Je ne comprends pas bien l'Évangile. Jésus vient enlever toute honte par sa grâce. Il vient m'accorder son pardon. Et c'est juste lorsque j'accepte l'idée que, OK, regarde, je suis comme ça, cette femme-là devait dire, ben oui, c'est moi. C'est vrai, tu as raison, c'est ça que je suis. Que là, il peut expérimenter à quel point Jésus l'aime. Puis Jésus est gracieux. Et peut-être que c'est ça qui te freine de vraiment embrasser Christ, de vraiment venir à lui, de vraiment embrasser la foi chrétienne, de placer ta foi en lui. C'est qu'à quelque part, il faut que tu sois trop honnête avec toi-même. Mais regarde comment Jésus est doux, comment il est bon avec elle. Puis je fais juste mentionner ceci par implication dans l'église locale. Vous penserez à ça. Puis je pense que c'est un des domaines où moi j'ai à grandir, mais où on a tous à grandir ici à l'église de l'Espoir. La honte ne devrait jamais être un outil dans l'église pour s'influencer les uns les autres. Lorsque je vais vers un frère, vers une sœur, puis je suis tenté de lui faire sentir, « Ouais, mais tu sais, tu n'as pas été à la hauteur. » On ne dit jamais ça comme ça à l'Église de l'Espoir, hein, entre nous. Mais faire sentir, tu sais, « Ouais, je suis insatisfait. » La honte ne fait pas partie des motivateurs dans l'Église de Christ. Ça se peut que j'aille vers mon frère pour dire, « Je pense qu'il y a un péché dans ta vie. » Mais mon objectif, c'est définitivement pas de le conduire à la honte. C'est de le conduire à la grâce. Si je vais exposer le péché d'un frère, d'une sœur, c'est pas pour me servir de ça comme un moteur dans sa vie pour obtenir quoi que ce soit de la relation. C'est simplement pour dire, reste pas là, c'est là dans ta tête. C'est sûr, tu es chrétien, je te connais, tu le sais que tu as péché, c'est là, c'est en train de te gruger, reste pas là. Viens, Christ franchit la distance, viens dans la grâce. Laisse-moi te rappeler l'Évangile. Mais la honte, l'espèce de « est-ce qu'on performe, est-ce qu'on est à la hauteur? » c'est un puissant motivateur dans la société, dans la culture. Parce que c'est un puissant motivateur en nous. Aujourd'hui, je n'aurai pas honte de moi. Aujourd'hui, je vais réussir. Aujourd'hui, je vais l'atteindre. Ce n'est pas ça le motivateur chrétien. Le motivateur chrétien, c'est « Christ m'a aimé, puis par reconnaissance, par adoration, je vais faire le bien, je vais le servir. Je vais être un adorateur. » La honte est partie. Ce n'est plus mon motivateur. Et honnêtement, je pense que ça fait encore souvent partie de nos rapports. On ne s'en rend même pas compte. C'est quelque chose à méditer. Maintenant, je termine avec... je m'étire un petit peu ce matin. Je termine avec, avec ce que Jésus veut faire, dans le fond, avec cette femme-là. Il veut faire d'elle un adorateur en esprit et en vérité. La femme va un peu tourner la conversation, mais je ne pense pas que c'est pour éviter. Je pense qu'elle pose une vraie question. Elle dit, « Bon, OK, tu connais beaucoup de choses à ce que je vois. Parlons théologie ensemble. Vous, vous adorez à Jérusalem. Nous, on adore au Mont Garizim. » Puis elle est encore dans les conventions, dans les rituels. Vous voyez, elle pense que Jésus n'aurait pas dû lui demander à boire parce qu'il va se rendre impur. Là, elle est dans les rituels d'adoration. Où est-ce qu'on adore? C'est quoi le bon rituel? Puis Jésus lui dit, non, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Ce que Dieu cherche, ce n'est pas des gens qui adorent là ou qui font ça ou qui rentrent dans des conventions. Ce que Dieu cherche, c'est des gens qui vont adorer par l'Esprit. Dieu est esprit et notre communion avec lui est en esprit. Dimanche prochain, ça va être le dimanche de la réforme protestante. Vous irez lire là-dessus cette semaine. Et puis, un des grands changements que la réforme protestante a apporté, c'est cette idée qu'on peut s'approcher de Dieu en toute simplicité. Ça ne prend pas des bâtiments extraordinaires, des cathédrales avec toute une atmosphère, toute une ambiance. Mais une des raisons derrière ça, c'est que Jésus nous dit que Dieu est esprit, puis ce qu'il veut, c'est des adorateurs qui vont l'adorer en esprit. Il vient d'enseigner à Nicodème que si on ne naît d'eau et d'esprit, on ne peut pas connaître Dieu. Donc, il est en train de parler de quelque chose qui se passe en nous par l'Esprit Saint, puis là, on devient connecté à Dieu. Et ce qu'il veut faire de cette femme-là, c'est une femme qui va adorer en esprit et en vérité. Et cette vérité-là, c'est Christ. C'est lui-même. Il va dire dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Voyez-vous, Jean vient juste de nous dire avant que c'est Jésus qui vient du ciel, c'est lui qui vient nous révéler le Père, et donc il vient nous révéler vraiment qui est Dieu. Et si je découvre vraiment qui est Dieu à travers la personne de Christ, je vais recevoir l'Esprit de Dieu, je vais recevoir l'Esprit de Christ en moi. Puis je vais être moi-même branché à Dieu, ma honte va être disparue, je sais qu'il a couvert la distance, puis je deviens simplement un adorateur de Dieu, en esprit, en vérité. Et la vérité, c'est que Dieu m'aime et que Dieu m'accueille. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Cette femme-là a vécu une rencontre à travers laquelle elle a expérimenté la grâce de Dieu. C'est une femme qui n'avait pas de relation avec les Juifs et qui avait probablement beaucoup de relations troubles dans son village. Puis elle a abordé Jésus selon toutes les conventions, toutes les normes qu'on lui avait apprises. Puis elle vivait avec la réalité qu'elle était une paria dans sa culture. Parce que c'était une femme qui avait eu plein d'hommes dans sa vie. Puis Jésus est allé vers elle, il a franchi la distance, il s'est approché d'elle. Puis il lui a dit, je veux te faire goûter quelque chose que personne ne peut te donner. J'aimerais que tu goûtes l'amour de Dieu. La grâce de Dieu. Mais pour ça, il va falloir que je te fasse connaître à toi-même qui tu es. Il faut qu'on ait une vraie conversation où on ne fait pas semblant que non, on met tout ça sur la table. Tes péchés, ta vie, ton état devant Dieu. Puis au fur et à mesure que je vais te révéler à toi-même, ça ne va pas te faire peur. Ça va devenir rassurant. Tu vas expérimenter la grâce. La grâce, c'est un amour immérité. Et donc, pour saisir l'Évangile, la bonne nouvelle de ce que Jésus est venu faire en mourant sur la croix pour mes péchés, j'ai besoin de comprendre que je ne mérite pas cet amour-là, puis que Dieu ne va pas me faire sentir « tu ne mérites pas, vis dans ta honte ». Non, plus il s'approche de moi, plus la honte disparaît, plus je suis en sécurité, en étant vrai, en étant complètement nu, sans cachette. Puis j'expérimente la grâce. Et lorsque je saisis cette grâce-là, je commence à devenir un adorateur. Un adorateur de Dieu en esprit et en vérité. Et si tu es chrétien comme moi, mais si tu as de la difficulté à garder cette disposition de cœur, où avec beaucoup de simplicité, tu fais juste venir dans la présence de Dieu, puis tu l'adores à travers des chants, la louange, comme on va chanter, peut-être qu'il y a un peu de vérité que tu as perdu de vue. Jésus-Christ est cette vérité. Il est venu mourir sur la croix pour nos péchés. Il n'y a plus de honte entre Dieu et moi. Quand je pêche, je confesse, sachant qu'il m'a déjà aimé. Et je reviens à cette vérité. Christ est celui qui était au ciel, qui a franchi la distance, qui est venu sur la terre, qui est venu vers les gens religieux comme Nicodème, qui avait plein d'idées préconçues sur Dieu, mais qui est venu vers cette femme complètement anonyme, samaritaine, qui nous ressemble beaucoup plus à nous, Québécois, puis gens du monde, avec des vies tout croches, mais qui franchit la distance, puis qui nous fait expérimenter la grâce de Dieu. On prie ensemble. Seigneur Jésus, ce matin en Église, on veut t'adorer. Nous voulons, Seigneur, déclarer combien tu es merveilleux. Nous voulons, Seigneur, être en communion avec toi. Sans honte, sans mise en scène, sans accroire, sans se faire croire à nous-mêmes que nous serions dignes. Je n'ai même pas besoin de jouer ce jeu-là avec toi, Seigneur. Parce que c'est toi qui es venu vers moi. C'est toi qui m'as aimé, Seigneur. Seigneur Jésus, on veut t'adorer ce matin. On veut te célébrer. Et viens nous remplir de ton Esprit Saint. Que cet Esprit qui était sur toi, Jésus, alors que tu avais ton ministère terrestre, nous anime entièrement parce qu'il est en nous. Seigneur Jésus, tu es la vérité qui nous affranchit de toute honte, de tout péché, Seigneur. Reçois notre adoration, nos louanges ce matin. Que ton nom soit béni. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui ont besoin de sentir ta grâce, de percevoir combien tu veux les aimer, combien ils n'ont rien à cacher devant toi, Seigneur. Viens leur faire entendre ta voix personnellement, de manière surnaturelle, Seigneur. Et qu'alors même qu'on va chanter, qu'ils puissent vraiment se livrer à ta grâce, Seigneur. C'est dans le nom glorieux de Jésus-Christ que nous prions. Amen.